Ça
dégourdit les
jambes,
allez-y.
J'adore ça. Moi, je sors tout le temps.
Grâce à sortir,
je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Allez, touchez ferme, sortez.
Oui, alors, franchement, c'est trop chouette. C'est rencontré des gens trop intéressants. Allez-y, quoi.
Sortez,
vous voulez sortir?
Au chien bleu,
vous
sortez.
Je suis chocolat.
Vous sortez tous avec nous.
Sors!
Il est 16h sur Radio Campus Tours, le 99.5 FM, et vous écoutez l'émission Sortez. Je suis comme d'habitude accompagné de Marie. Salut Marie.
Salut, bonjour.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'invité sur la thématique de la transition écologique. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Anne, coordinatrice, et Camille, en service civique de l'association Biodiversity. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour introduire un peu l'émission du jour, est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement qu'est-ce que Biodiversity et puis depuis combien de temps existe l'association ?
Alors, l'association, elle existe depuis 2011. Et elle a été créée par deux personnes, Marie et Ludo. À l'époque, ils avaient pour objectif d'abord de faire des jardins partagés et de l'apiculture urbaine. Au départ, on était vraiment dans l'idée de mettre de la nature en ville. Et petit à petit, voilà, les choses se sont transformées. Et aujourd'hui, on est une association d'éducation populaire, mais aussi d'éducation environnement. Et on a plusieurs activités autour de l'animation nature, autour des séjours nature. Des colos l'été pour les enfants. Et on a toujours l'activité autour de l'apiculture urbaine où on place des ruches dans différents lieux. On travaille avec des entreprises ou des collectivités. Voilà. On pourra peut-être approfondir au fur et à mesure.
Et donc, quelles sont les valeurs qui sont partagées au sein de l'association et leur mission ?
Les valeurs, elles sont quand même tout d'abord écologiques. La mission que s'est un peu donnée l'association, c'est de faire aimer la nature pour mieux la protéger via ses différentes actions. L'idée, c'est de faire connaître des petits bouts de nature ou même des fois des natures ordinaires qu'on a en milieu urbain, d'apprendre à les connaître et à les aimer, d'apprendre à vivre avec ces petits bouts de nature aussi. On se dit, même on est plutôt sûr que c'est par là qu'il faut commencer, que c'est en connaissant une chose qu'on peut apprendre à la protéger, à la respecter ensuite.
Et Anne et Camille, quels sont vos rôles respectifs au sein de l'association ? Qu'est-ce que vous êtes amenées à faire ?
Alors moi, mon rôle qui a débuté environ au cours d'octobre, c'est de gérer des groupes de bénévoles qui viennent faire les soins des quelques animaux qu'on peut avoir à l'assaut. D'alimenter un peu les réseaux sociaux, mais aussi de pouvoir participer, surtout en ce moment, enfin, à regarder Anne, du coup, et notre collègue faire les animations, et peut-être par la suite pouvoir en animer quelques-unes, et donc créer aussi des supports d'animation autour de l'environnement et la nature.
Et du coup, moi, Anne, je suis arrivée à l'association en 2017, donc je commence à être la vieille de l'asso, par le biais d'avoir de l'apiculture, puisque j'avais appris de l'apiculture en faisant un volontaire en service civique, justement, à l'association. Et j'ai commencé par être apicultrice, et puis les choses ont évolué. Avec mon ancienne collègue Solène, on avait créé les camps qui prennent aujourd'hui une grosse ampleur dans l'association, donc, et les animations. Et donc aujourd'hui, mon rôle est plutôt autour de la coordination des animations, autour de la coordination des camps nature, mais aussi autour de la coordination en général, puisque gérer une association, c'est aussi gérer de la comptabilité, des demandes de subventions, des budgets. Mais c'est des choses qui me passionnent, alors j'adore faire ça.
Je ne savais pas qu'on pouvait être passionné de budget. Non, pas de budget pour Biodiversity. Comment l'idée et l'envie de faire un service civique chez Biodiversity, elle t'est venue, Camille ?
Moi, elle m'est venue parce que j'ai toujours aimé travailler en extérieur et beaucoup avec les animaux, en quelque sorte. Et l'idée de faire ce service civique à la Biodiversity est venue de mon arrêt, tout d'abord, de la fac. D'un besoin de rechercher quelque chose qui me plaît à faire avant de reprendre mes études. Et du coup, j'ai trouvé mon service civique dans cette association que je ne connaissais pas du tout au début. et qui maintenant m'apprend plein de choses.
Trop bien.
Biodiversité, au total, c'est combien de personnes dans l'équipe permanente ?
Alors, on est 2 salariés en CDI. On embauche en CDD une personne, puisqu'on a des boulots, un travail saisonnier où les animations, on est un peu comme les... En hiver, il ne se passe pas grand-chose pour nous, comme la nature. Donc, c'est plus calme. Et donc, pour la saison plus forte, on embauche une personne pour venir en soutien. Et depuis 2 ans, on accueille aussi des volontaires en service civique. On l'avait fait avant, puis on l'avait arrêté. On recommence de septembre à juillet pour une année entière à Biodiversity. C'est aussi une 30aine de bénévoles à Biodiversity. On a notamment beaucoup de bénévoles qui sont investis sur le soin de nos animaux, puisqu'on n'en a pas encore parlé, mais on a 2 ânes, on a 2 lapins et 4 poules à l'association. Et qui font partie. On a eu fait de la médiation animale avec eux, mais aujourd'hui ils font partie de l'ADN de l'association. On fait aussi des animations avec eux. On a aussi 1 million d'abeilles. On a plein de monde à s'occuper, mais les bénévoles du coup viennent régulièrement s'occuper d'eux puisqu'on ils ont besoin d'une présence quotidienne. Donc les salariés, on y va avec les salariés et volontaires, on y va en semaine régulièrement, mais les week-ends ou les jours où on n'est pas là, c'est des bénévoles qui y vont. Donc là, on a une grosse équipe de bénévoles. Mais on a aussi une collégiale d'administrateurs et d'administratrices qui sont investis sur le développement de l'association, les valeurs, sa vision, vers où on veut aller, ou aussi politiquement, comment on peut... quel choix politique on fait et quelle prise de position on prend. Voilà, on réfléchit à tout ça en collégien en général.
Et donc, vous êtes sur 2 lieux, à la Charpraie et dans le quartier des Fontaines. Qu'est-ce qui caractérise ces 2 lieux ?
Notre emplacement, nos bureaux en fait sont au quartier des Fontaines. Donc c'est là où en fait on a nos locaux, où on a des bureaux avec du chauffage au chaud pour travailler, puisqu'on a quand même aussi beaucoup de travail de bureau derrière notre ordinateur. Et donc ça nous permet aussi, en fait on est très contente d'avoir ces bureaux-là, parce que ça nous permet aussi d'être implantés sur le quartier des Fontaines et de créer du lien avec des personnes qui n'ont pas forcément accès à la nature, et de les emmener en plus de temps en temps à la Charpraie. Et on travaille aussi beaucoup avec eux, on fait des animations sur le quartier, parce qu'on travaille avec la Maison pour tous, le centre social. Et le fait d'avoir nos bureaux sur place nous permet de plus facilement créer ces liens. Et ensuite, on a en effet nos animaux qui sont à la Charpraie, qui est un accueil de loisirs de la ville de Tours, mais qui est à Chambray-les-Tours. Donc c'est 30 hectares de prairies et de forêts. La ville de Tours nous y accueille et on les remercie pour ça. Et on a 1 hectare qui nous est dédié que à nous, où on peut y mettre nos ânes, nos poules, nos lapins. On a notre rucher pédagogique aussi. Et en fait, ce lieu nous permet d'accueillir des publics dans des milieux totalement, dans un milieu totalement naturel, qui est à la fois accessible parce qu'il n'est pas très loin. Donc on peut quand même y aller facilement, même s'il n'y a pas de bus, il est quand même pas très très loin, il est accessible. Et à la fois il y a 30 hectares de prairies et de forêts, donc on a, nous, un espace de jeu pour nos animations qui est immense, et ça nous plaît beaucoup.
Donc le rôle de Biodiversité de base, c'était d'introduire un peu de vert dans la ville, et maintenant c'est aussi beaucoup d'éducation à l'environnement. Quelles sont les activités, il y en a déjà plusieurs qui ont été citées, quelles sont les activités phares menée par l'association?
Camille, c'est quoi l'activité phare de ton avis?
Tout ce qui est autour des abeilles. Il était surtout les camps nature qui ont lieu durant tous les étés. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a plein d'autres choses. Il y a des week-ends campés qui ont lieu au mois de juin. Et puis, des animations aussi dans des écoles autour des insectes, des abeilles, enfin des demandes, quoi.
Auprès de quel public est-ce que vous intervenez?
On intervient auprès de tous les publics. On se limite pas. On a des maternelles qui viennent nous rendre visite. On a travaillé avec des crèches aussi. On a des personnes en situation de handicap aussi. On peut avoir aussi, on est déjà intervenu aussi en maison de retraite. Donc on travaille avec des, quand on travaille avec le centre social, c'est beaucoup les familles. Donc c'est des animations parents-enfants. Quand on intervient en accueil de loisirs ou dans les écoles, bah, c'est des, souvent des enfants. Notre principal public, je dirais que c'est les enfants. Mais après, on intervient vraiment auprès de tous les publics. Et quand on a des demandes, on arrive toujours à s'arranger pour trouver et s'adapter. Puisqu'on est persuadé que la nature doit être accessible à tous et toutes. Et qu'il n'y a pas de raison, en fait. Et des fois, on s'arrête à une tranche d'âge, alors que même dès 0 ans, on devrait avoir accès à la nature.
C'est ça, moi je suis curieuse. Du coup, quand on travaille avec un public de crèche, comment on s'adapte? C'est quoi? C'est surtout du contact avec les animaux?
Ouais, quand on travaillait, c'était sur un ancien livre, on travaillait beaucoup avec une crèche. C'était beaucoup autour de nos animaux, du coup, ouais. Juste de les faire caresser un âne, ou même on les mettait un peu sur l'âne, ils s'asseyaient. Et il y avait un contact, un lien qui se créait. Les ânes, ils sont tout calmes au contact des tout-petits, en plus, parce que les tout-petits sont impressionnés et souvent très calmes aussi. Ils n'ont pas encore beaucoup de craintes. Et donc, c'est vraiment de la création de liens avec les animaux. On est beaucoup autour du sensoriel à cet âge-là. Et déjà, même de marcher un petit peu dans la terre, dans l'herbe, pour aller jusqu'au lapin, lui donner une petite carotte, à cet âge-là, c'est déjà une activité. Hein. Une grande découverte.
Vous êtes également en réseau avec d'autres organismes pour la protection et l'éducation à l'environnement. Qui sont-ils?
On travaille, à Tours, on a un réseau qui s'appelle le réseau d'éducation à l'environnement. C'est le RE37. On est plusieurs associations à en faire partie. Je pense notamment à Couleurs Sauvages ou à Arbour et Sciences ou la LPO ou la Sépante, l'Arbre Voyageur. J'en oublie sûrement. Mais toutes ces associations-là, on travaille ensemble et on se réunit trimestriellement pour faire des points. Ça nous est arrivé de faire des projets communs, donc de se réunir tous ensemble pour faire un projet ensemble, notamment avec la création d'un film il y a quelques années qui s'appelait Le Grand Secret du Lien. Et sinon, régionalement, on a le Graine Centre, qui est un réseau d'éducateurs environnement, où là, il y a des salariés qui sont salariés aux graines. Et du coup, il y a beaucoup de formations d'organiser, des journées d'échange. On est plus sur des décisions, on prend ensemble les décisions politiques qu'il y a besoin, où on se positionne à un moment. Voilà. On fait des journées de rencontres pour s'entraider sur des animations, sur de la comptabilité, la dernière journée d'échange, par exemple, c'était sur les espèces en voie de disparition, comment animer autour sans aller détruire leur environnement, enfin, toutes les questions qu'on peut se poser en tant qu'éducateur environnement.
Eh bien, merci à vous donc, pour cette présentation. On pourrait y revenir un peu plus en profondeur juste après une pause musicale sur Radio Campus Tours. Qu'est-ce qu'on va écouter, Samuel? C'est un morceau que tu as sélectionné.
Exactement. On va écouter Element de Leila sur Radio Campus Tours.
Baby, you know that I adore you. I guess tonight the celebration's for two. Nothing can take us from this moment when we're lost in the room. Taking me higher, ain't no question. I can see the way we're rolling and I know just where we're going. What you want me to do? I could take you somewhere sweet, honey, huh? Would you step 'cause you're falling in deep for it? Night crawling through your mind, don't sleep on it. Got a whole lot of time, all we need to go. Won't you take me, won't you take me out of my comfort zone, zone. Love the way you bring me into my.
Vous venez d'écouter Element de Leila sur Radio Campus Tour. Il est temps à présent de nous intéresser de plus près à nos invités. Alors je rappelle que Anne, coordinatrice, et Camille en service civique est à l'association... l'association Biodiversity, ils sont avec nous. On l'a dit, il y a plein d'activités qui sont proposées pour l'éducation à l'environnement. Il y a tout un travail de médiation animale et de balades qui sont proposées avec des ânes. Pourquoi avoir choisi l'âne comme animal ?
Alors, pourquoi l'âne ? Malheureusement, ce n'est pas vraiment moi qui peux répondre à cette question. Mais je vais répondre quand même un peu à sa place. On a une salariée, Solène, qui est restée une dizaine d'années à l'association, qui avait un âne avant d'arriver à l'association et qui cherchait un endroit où pour mettre son âne. Et petit à petit, en parlant à Biodiversity, le projet s'est créé d'avoir d'autres ânes pour tenir compagnie aussi à son âne. Et elle a fini par trouver un lieu qui était un centre médico-social. Et est venue assez vite l'idée de faire de la médiation animale, donc elle s'est formée. Et donc le projet d'installer des ânes dans les centres médico-sociaux et arrivé comme ça, un peu par hasard, par la passion d'une de nos salariés pour les ânes par une demande qui s'est créée dans un centre médico-sociaux pour avoir de la médiation animale.
Et alors, on passe encore sur un autre volet, mais tu parlais, Camille, tout à l'heure des abeilles qui sont très importantes. Qu'est-ce que le club apiculture ?
Le club apiculture, c'est des personnes qui sont volontaires à venir en apprendre sur les ruches et qui donc à raison de, je crois, une fois par mois, c'est ça ? Oui, une fois par mois, ils vont venir sur les ruches ou dans une salle où on va pouvoir leur expliquer comment fonctionne la ruche et comment gérer une ruche. Et donc ça leur permet d'apprendre pour la suite, pour eux, comment gérer une ruche.
C'est possible de parrainer une ruche. Comment est-ce que cela se passe et qu'est-ce que ça permet ?
Alors, le parrainage de ruche, ça permet à des entreprises ou à des particuliers de soutenir l'association et en contrepartie d'avoir une partie de la récolte du miel. Donc, on propose 20% de ce qu'a créé la ruche. D'avoir une animation dans l'année. Donc on organise une journée par un marraine où ils viennent rencontrer les abeilles de la ruche. Donc on met les tenues d'apiculture parce qu'on est habitué à faire des animations avec les abeilles. Donc on a plein de tenues d'apiculteurs et d'apicultrices. Et on enfile les tenues et puis on va ouvrir une ruche un petit peu, essayer de montrer comment on manipule, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et régulièrement aussi, on envoie des nouvelles. Ce qui permet aux paramarraines de suivre un peu sur une année ce qui peut se passer dans une ruche et quels sont les enjeux liés à l'environnement.
Et Biodiversité organise aussi des séjours nature et un camp itinérant l'été, c'est ce que vous disiez, ça commence à prendre beaucoup de place aussi dans l'association, donc plutôt pour les pré-ados si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un programme assez complet, comment ils se déroulent ces séjours et le camp itinérant?
Oui, sur l'été, on a 8 séjours nature pour les 6-12 ans, donc plutôt pour les enfants, qui se déroulent à la Charpraie, donc sur notre terrain, au milieu de nos animaux, des poules, des lapins et des ânes. On installe en fait tout simplement des tentes et des barnums, et on a douche solaire et toilettes sèches. Et on vit au gré de la nature. On dort, tous les enfants dorment sous tente ou à la belle étoile, selon la météo. On fait des jeux dans la forêt. On s'occupe des ânes, on va aussi, si le météo le permet, voir les abeilles. Voilà, il y a tout un petit programme nature. Et puis les enfants participent à la vie du camp. Donc ils font la vaisselle, ils vont renterrer les toilettes sèches dans la forêt, puisqu'il faut bien vider les toilettes sèches. Ça, c'est la tâche phare de la semaine. Et ils font la cuisine aussi. Et voilà, ils choisissent leur repas, tout ça. On a des animateurs, du coup, qui sont sur ces camps tout l'été, des animateurs vacataires. Et cette année, on a créé des camps itinérants. Et donc, on va faire Chinon-Saumur à pied en 6 jours avec des pré-ados. Donc là, c'est sur du 11-15 ans. L'idée, c'est qu'on soit en totale autonomie. Donc, que les ânes portent les tentes et le petit matériel de cuisine qu'on aura. Et que les jeunes, ils portent leur sac à dos avec le minimum vital, mais le minimum, minimum, parce qu'il faut que ça soit léger comme sac à dos, donc c'est à la route. Et on va donc soit dans des campings, soit on loge dans des fermes. Mmh. On a les deux.
Et comment se sont créées, du coup, ces deux activités?
Les camps se sont créés d'abord par... on a commencé avec les ânes à pas mal se balader et à faire de l'itinérance avec les bénévoles, ça s'appelait les transhumanes. Et de là est venue l'envie de le faire aussi avec d'autres et avec des enfants. Et on a créé d'abord des camps sur place, on était sur un autre lieu avant, on était à Fondette, au château Taillé, et où eux aussi organisaient des colos. Donc on a essayé, et en fait on a eu... on s'est rendu compte que c'était une demande, en fait. Enfin, on avait beaucoup, beaucoup de parents et beaucoup d'enfants qui souhaitaient partir en camp. On a très vite rempli nos camps et du coup, petit à petit, ça a pris un peu plus d'ampleur. Après, on reste un truc à échelle humaine, hein. On doit accueillir 150 enfants à l'été. On n'est pas sur des milliers.
Mais il faut déjà les accueillir, les 150 surtout.
Oui, tout à fait. On a 20 enfants max par camp, en fait. On n'est pas... On veut, que l'immersion en nature fonctionne, on estime qu'à plus de 20, ça serait trop. Donc, voilà. Et après, à moins de 12, c'est un peu compliqué aussi de faire groupe. Donc, on essaye de faire des groupes entre 12 et 20. Mais on les remplit tous pour le moment. Et en fait, ouais, ça a pris de l'ampleur parce que... ça se remplissait, donc on a fait plus et ça continue de se remplir. Aujourd'hui, il y en a qui reviennent tous les ans et qui grandissent. Donc, on veut leur proposer autre chose. Donc, on a créé des camps itinérants parce qu'on avait des ânes. Donc, en fait, ça a beaucoup de sens pour nous de partir se balader avec eux, d'aller plus loin et d'aller plus loin aussi dans l'immersion avec ceux qui grandissent en faisant une itinérance. Ça a beaucoup de sens pour nous.
Ouais, ça doit être trop l'éclat. Puis en plus, c'est bien, ça reprend le format des classes découvertes, etc. Donc c'est chouette. Du coup, quel retour vous avez des participants au séjour nature?
Il y en a beaucoup qui reviennent.
Ce qui est un bon indicateur. Ouais.
Voilà, c'est déjà un bon indicateur. Non, le retour qu'on a, c'est que c'est des séjours idéaux quand même pour des premiers séjours aussi pour les enfants. Puisque au vu de l'emplacement, on n'est pas loin de Tours. Donc c'est facile pour les familles de les amener et à la fois ça rassure de savoir qu'ils ne sont pas trop loin pour une première colo. S'il y a besoin de venir les chercher, s'il y a un souci ou autre, ça rassure les parents. Ça rassure aussi les enfants, des fois aussi, de ne pas être trop loin de leurs parents. Mais ça rassure aussi beaucoup les parents. ce que je comprends tout à fait. Les retours qu'on a, c'est aussi que les enfants trouvent une certaine... c'est peut-être exagéré comme mot, mais une certaine liberté. Puisqu'on est dans un principe de ne pas être dans la suractivité sur nos camps. On n'a pas de programme prédéfini. On part aussi beaucoup de l'envie des enfants. Et on a aussi, tous les matins, en fait, il y a plusieurs activités proposées, mais ils font chacun ce qu'ils veulent. Et s'ils veulent rien faire, ils peuvent ne rien faire aussi. On laisse cette possibilité-là. Et donc, il y en a beaucoup qui trouvent ça aussi très reposant.
Quelles sont les grandes thématiques sur lesquelles il est important de sensibiliser le jeune public ?
Je crois que ce qu'il faut faire attention, surtout avec le jeune public, c'est de ne pas trop les angoisser. Parce qu'aujourd'hui, on leur met beaucoup sur le dos avec un réchauffement climatique qui nous arrive droit dessus. On se dit que c'est eux qui sont la génération qui vont guérir le monde. Mais du coup, c'est très, très angoissant pour cette génération qui arrive d'avoir ça sur les épaules. Donc je pense que ce qu'il faut leur apprendre en pleine nature, c'est à collaborer, à faire avec et à être respectueux et à l'aimer. Mais c'est tout pour le moment. Et puis arriver plus tard dans des sujets plus difficiles autour de la protection de l'environnement. On essaye de vraiment pas être culpabilisant et d'être vraiment dans des moments joyeux et collaboratifs.
Et quand on arrive justement dans le plus tard, parce que parfois on est obligé d'aller dans des sujets un peu plus durs, qu'est-ce qu'il est essentiel de transmettre selon vous pour qu'on reconsidère notre rapport au vivant ?
Alors après, c'est sûr qu'à un moment, il faut aller, je suis d'accord, faire prendre conscience de ce qui se passe. Et nous, notamment, on est spécialiste entre guillemets, enfin on n'est pas vraiment spécialiste non plus, mais nous notre dada c'est les insectes quand même aussi beaucoup, et les insectes pollinisateurs, et ils sont en voie de disparition, et ça a des conséquences énormes pour la planète et pour l'environnement, puisque la pollinisation c'est la base aussi c'est la base de tout. Pour qu'une plante fasse un fruit, elle a besoin d'être pollinisée. Si je résume rapidement. Et donc, il est important de faire prendre conscience aussi à un moment de ce qui se passerait si ça arrive, en fait, ou quand ça arrivera, qu'est-ce qui se passera. Et c'est important de faire prendre conscience. Et c'est important aussi de donner des outils derrière ça, parce que de juste faire prendre conscience, des fois, ça peut juste entraîner de l'angoisse ou de la colère. Mais si on ne sait pas ce qu'on peut faire derrière...
Oui, il y a un sentiment d'impuissance. Et,
ouais. Totalement. Et qu'on a tous, parce que même... notre pouvoir d'agir reste très petit aujourd'hui encore, malgré le fait qu'il y a des choses à faire. Mais je trouve que notre pouvoir d'agir est quand même pas si fou. Mais on peut se battre, et plus on sera nombreux, et plus... Enfin, on croit en cette lutte.
Tu disais, ouais, c'est important de ne pas faire culpabiliser. Quelles approches vous adoptez du coup avec Biodiversity pour sensibiliser le public ?
Dans l'importance de ne pas faire culpabiliser, ça dépend de qui aussi. Je parlais vraiment des enfants. Je parlais vraiment des enfants. Je pense qu'en tant qu'adulte, on est peut-être plus prêt à entendre certaines choses. Et donc, nous, en fait, avec les enfants, on travaille. On travaille vraiment d'abord la connaissance, puisqu'on estime que sans la connaître, on ne pourrait pas avoir envie de la protéger. Ou que c'est compliqué, en fait, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Donc on est vraiment dans l'apprentissage, dans des apprentissages scientifiques. Si on a envie de reconnaître un insecte ou une plante, de savoir comment le faire, par quel biais. Il y en a qui aiment ça, des enfants, mais il y en a d'autres aussi qui aiment juste jouer dedans, donc apprendre à jouer dedans. Il y en a qui aiment juste, qui ont des approches très artistiques, qui aiment dessiner, qui aiment faire du land art. Alors, on leur offre de quoi faire tout ça. Il y en a qui sont beaucoup dans le sensoriel. Alors, des fois, on se moque un peu de moi quand je dis ça, mais il y en a qui sentent vraiment des énergies dans la forêt que d'autres ne sentent pas. Et qui sont sensibles à ça, et qu'aussi, il faut leur permettre avec des outils d'avoir des approches sensorielles de la nature.
Donc on essaie déjà plus sur Biodiversity. Merci beaucoup à toutes les deux. On va faire une nouvelle pause musicale. On écoute Underwater Stars de Ozu et Kaizen. Will I ever find the purpose of my... Will I ever find the purpose of my pride?
of this society that are pulling me apart. Of my pride, I'm caught in my words, polluted by time. There's a strong current tearing at my mind, pulling against the light, pulling against the light. The look in my eyes reflected my heart from the simplicity of knowing that we were in love, as if we were underwater stars, illuminated from above. Illuminated from above. As if we were underwater stars, illuminated from above.
C'était Underwater Stars de Osso et Kyson sur Radio Campus Tour, le 99.5. Vous écoutez l'émission Sortez avec nous Camille et Anne de l'association Biodiversity. On en parlait en off, à quel défi est-ce que vous faites face et quelles difficultés vous pouvez rencontrer dans votre activité?
Je dirais que d'abord on fait face à un défi qui est celui du réchauffement climatique aujourd'hui et face au défi des climato-sceptiques qui sont de plus en plus nombreux, donc de devoir convaincre de plus en plus de monde apparemment que l'environnement est important et que la nature a des droits. Et ensuite on fait face aussi à des enjeux politiques aujourd'hui, j'ai envie de dire comme tout le monde, budgétairement c'est compliqué. Il y a beaucoup d'incertitudes, malgré le fait qu'on en parlait tout à l'heure en off. En effet, il y a quand même de plus en plus aussi de monde, même s'il y a de plus en plus de climato-sceptiques, il y a aussi quand même aussi de l'autre côté de plus en plus de monde qui semble sensibiliser à l'environnement et avoir envie de faire des choses pour. Donc on le voit bien que même dans les écoles, il y a de plus en plus de demandes d'animation par les écoles. Les instituts aujourd'hui sont beaucoup plus investis, il y a beaucoup plus en plus d'écoles du dehors, qui est un dispositif qui permet de faire classe dehors. Il y a de plus en plus de demandes d'animation pour les associations d'éducation et d'environnement, mais face à ça, il y a aussi des manques de financement et des difficultés pour ces partenaires de nous financer pour qu'on puisse travailler avec eux. Le souci, c'est que les communes, le département et la région font face à des baisses budgétaires qui ne leur permettent peut-être plus de nous financer, ou en tout cas, ils n'ont pas de vision, ils ne peuvent pas nous dire sur les subventions ce qui va être maintenu, ou ce qui sera en baisse, ou ce qui sera supprimé. Donc ça met tout le monde dans un flou, un flou total.
Et ils sont gros les enjeux quand on fait de l'éducation populaire autour de l'environnement.
Je sais pas si je pense que tous les enjeux ont leur importance en éducation populaire. Je pense que, et ça peut être le défaut en éducation environnement des fois, c'est de ou ce qu'on peut reprocher à certaines courants écolos, c'est de ne pas oublier aussi le social et de ne pas oublier l'enjeu, c'est d'inclure tout le monde dans cette éducation environnement d'inclure aussi des minorités d'avoir un discours pour tous et pour toutes et de ne pas hiérarchiser les combats. Je crois que tous les combats sont importants.
Et dans... c'est beau ce que tu viens de dire. Dans les enfants, dans les familles qui viennent vous solliciter pour les camps d'été, est-ce que c'est tout public ou est-ce que c'est déjà des personnes qui ont une sensibilité à l'environnement, qui sont déjà engagées et qui du coup viennent vous chercher parce qu'ils connaissent l'organisme?
Dans un premier temps, c'est clairement ça. On attire les personnes du réseau qui nous connaissent et qui sont prêts à envoyer leurs enfants dans un milieu naturel. Enfin, c'est clairement des professions intermédiaires, je crois que c'est le mot. Mais du coup, on travaille pour être plus accessible. Et donc, on est colo-apprenante aujourd'hui. C'est un dispositif de l'État qui nous permet d'accueillir des enfants des quartiers dits prioritaires, comme le quartier de Fontaine, par exemple, ou le quartier Sanitas. Et donc, on travaille avec la réussite éducative de la ville de Tours pour que sur tous nos camps, il y ait des enfants qui viennent de ce quartier et qui, eux, ont souvent très peu accès à des lieux de nature et sont beaucoup moins sensibilisés. Même si, via ces dispositifs, c'est de plus en plus facile quand même pour eux d'avoir accès à ce type de... surtout partir en vacances, en fait. C'est surtout ça qui est difficile.
Et du coup, c'est un dispositif que vous arrivez à mettre en place et qui marche bien ?
Très bien. Ouais. Tant qu'ils sont avec les enfants, ils s'adaptent très vite et ça marche très très bien. Ils s'intègrent très bien dans le groupe. On a tenté aussi l'expérience avec des ados et ça a été un peu plus compliqué parce que un peu moins d'adaptabilité quand on grandit.
Il y a déjà des réflexes qui sont pris. Et à déconstruire, c'est un peu plus lent. Ouais.
Exactement.
Je reprends ma question dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que vous êtes davantage sollicité depuis qu'il y a un engagement collectif qui est un peu plus marqué pour l'environnement ?
Oui. Je pense que le succès de nos camps est aussi lié à ça. Avoir envie que ses enfants passent du temps en nature et tout, c'est lié aussi à cette envie de plus être dans une course totale aussi et dans un truc de consumérisme à fond. Et c'est ce que je disais, que les instituts fassent de plus en plus école du dehors, c'est lié à ça, qu'il y ait de plus en plus de demandes d'animation dans les écoles, dans les accueils de loisirs. Il y a même un BPGEPS qui a été créé l'année dernière pour former plus d'animateurs nature, un BPGEPS environnement, puisqu'on peinait à recruter aussi un moment en éducation environnement face à la demande qui arrivait.
Et de manière globale, est-ce que vous observez plus d'implication et d'engagement pour la protection de l'environnement ? On a déjà parlé du jeune public et des ados.
Oui, mais c'est toujours compliqué parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans une bulle, que ce soit via les réseaux et l'algorithme qui nous maintient dans notre bulle. Et de par le fait qu'on force souvent, quand on organise une animation, on va attirer un public qui, même si il n'est pas sensibilisé à la nature de base, il est quand même consentant pour être là. Donc il est quand même déjà dans l'envie d'être là un petit peu quand même et déjà un peu sensibilisé malgré tout. Et les chiffres sont là. Pour autant, il y a de plus en plus de climato-sceptiques et la montée du fascisme est quand même encore très présente. Et c'est des choses qui nous inquiètent aussi fortement à Biodiversity.
Est-ce qu'il y a eu une anecdote, une rencontre qui vous a marqué ?
Une anecdote. Je dirais que c'est pour moi, du coup, c'est ma première animation dans un quartier, ça fait un petit moment maintenant, c'est au quartier des Sanitas, avec des femmes et des enfants. Donc c'était des familles et j'avais encore, moi je suis de la campagne et j'avais encore quelques stéréotypes et c'était des femmes qui étaient avec le voile intégral et ça m'a fait bizarre sur le coup. Et en fait ça s'est très très bien passé, c'était génial, on a passé un super moment et j'avais aussi des stéréotypes sur le fait que peut-être la nature elle connaissait pas, alors qu'elle connaissait plein de choses. On n'a fait que des échanges en fait c'était à la fin, c'était plus une animation, c'était des échanges entre des personnes qui adoraient la nature, qui adoraient, on faisait des cosmétiques naturels et qui adoraient parler de ce qui était bon pour sa peau et ce qui était naturel, et c'était très agréable. Et ça a un peu cassé mes stéréotypes, malgré le fait que je pensais que j'en avais pas.
Ouais, c'est ça, bon, quand on pense qu'en fait, il y a toujours des choses.
Tout à fait, on est toujours en déconstruction.
Et toi, Camille, tu disais que donc, ça t'apprenait beaucoup d'être en service civique ici, surtout dans une association que tu ne connaissais pas. Ce serait quoi tes plus gros apprentissages depuis que tu es en service civique ?
Tout d'abord, le fonctionnement d'une association, parce que j'étais jamais entrée dans une association, et encore moins pour y travailler en quelque sorte, parce que ce n'est pas vraiment un travail. Mais ce que j'apprends beaucoup, c'est sur l'animation, parce que j'avais pas forcément d'expérience dans l'animation. Et le fait de pouvoir participer à des animations, aussi de passer mon BAFA, du coup, pendant cette année, je passe mon BAFA.
C'est super formateur pour ton contact au public. Ouais.
Donc voilà.
C'est une belle morale pour un service civique. Donc comment est-ce qu'on peut soutenir les... Ça te fait rire, toi. Comment est-ce qu'on peut soutenir les actions de biodiversité et comment on peut devenir bénévole ?
Pour devenir bénévole, il suffit soit de nous appeler, soit de nous envoyer un mail à contact@biodiversity.fr. Vous pouvez aussi retrouver des infos sur notre site internet www.biodiversity.fr. Biodiversity, c'est avec un C, comme la ville. C-I-T-Y.
C'est un petit jeu de mots.
Ouais. Pardon.
Non, j'allais poser la question. Et donc, c'est pareil pour s'inscrire aux différentes activités. On vous contacte via votre site internet.
Oui, c'est ça. Bientôt, en plus, c'est aujourd'hui. C'est l'ouverture de l'agenda nature qui est organisé par le département. Toutes les assos, on est beaucoup d'assos à organiser des animations nature dans les espaces naturels sensibles du département. C'est financé par... Et donc nous, on fait des balades avec les ânes sur la métairie et des découvertes des abeilles. Je dis des abeilles avec un S parce qu'il y a plein de types d'abeilles différentes et c'est le moment d'aller les découvrir. Donc c'est toujours par mail ou par téléphone qu'on prend contact avec nous, tout à fait. Et si on veut devenir bénévole, c'est avec grand plaisir, puisqu'en plus en ce moment, on cherche des nouveaux bénévoles pour prendre soin de nos animaux. Alors n'hésitez pas à nous contacter.
C'est super en plus. Si vous voulez prendre soin des animaux près de Tours, c'est hyper accessible. Merci beaucoup Anne et Camille d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc nous sommes également avec Noam qui est arrivé il y a peu avec nous. Bonjour Noam, tu fais partie donc d'EMF, des étudiants musulmans de France. Et tu voulais nous parler des distributions alimentaires que vous réalisez, c'est bien ça ?
C'est exactement ça. Donc oui, effectivement, on est une association, de loi de 1905. Et nous organisons en fait, en ce mois, donc on organise une campagne qu'on appelle la campagne « Un mois et toi ». Et on organise pas mal de distributions alimentaires au profit des étudiants durant ce mois-ci. On essaye d'organiser donc des distributions, enfin on organise des distributions tous les lundis et les mercredis de repas chauds avec nos partenaires. Et également on organise des repas collectifs le jeudi. Et en termes d'objectifs, ce qu'on essaye d'atteindre, donc c'est 120 repas chauds distribués tous les lundis et les mercredis. Et... une organisation donc des repas collectifs à hauteur de 100 personnes sur les jeudis. Donc voilà.
Et alors comment elles se sont mises en place, cette distribution ? Comment est venue l'impulsion à l'origine de cette action ?
Alors il faut savoir qu'en fait, EMF c'est une fédération nationale. Donc nous on n'est pas uniquement sur Tours, on est dans plus de 25 villes de France. Et c'est quelque chose qui a toujours été mis en place, on va dire, à travers le temps, donc depuis 1989, depuis la création de la fédération. Et c'est un moment vraiment de regroupement. On remarque beaucoup que les étudiants adorent, qu'ils soient non-musulmans ou non-musulmans, c'est vraiment un moment de regroupement, un moment social où tout le monde se retrouve et tout le monde s'entend bien, tout le monde échange des bons moments et on en ressort tous avec de bons souvenirs. Et au final, c'est incroyable. Donc c'est une bonne campagne et on adore la faire, on essaye de la faire tous les ans.
Et quel est ton rôle du coup dans l'association ?
Alors moi, pour le coup, je suis vice-président de l'association, donc sur ce mandat. Donc c'est
sur ce mandat.
Comment ? Sur ce mandat, oui, je suis vice-président. Donc c'est un petit peu l'émission du président. On se partage un petit peu l'émission, coordonner l'équipe, superviser un petit peu tout ce qui se met en place. Et il y a pas mal de choses à superviser parce que l'association elle ne fait pas que du social. On est vraiment actif sur plusieurs axes. Pour tout vous dire, on a un axe social donc, sur lequel on essaie de lutter contre la précarité étudiante à travers toutes ces distributions donc, qu'on met en place durant ce mois-ci, mais qu'on met également en place tout au long de l'année, pareil au profit des étudiants. On a également un axe culturel sur lequel on essaye de lutter contre l'isolement social parce que c'est un phénomène qui est un petit peu, on va dire, sous-coté. Il y a beaucoup de jeunes qui sont victimes en fait, de cet isolement social. Moi, je l'étais l'année dernière, par exemple. Par exemple, et on trouve ça vraiment dommage. Donc à travers cet axe culturel, on essaye de mettre en place des événements sur lesquels les étudiants peuvent sortir, se retrouver et puis surtout se cultiver. Et enfin, un axe représentation étudiante sur lequel on essaie de défendre l'intérêt des étudiants à travers tout ce qui peut être touché. Donc là, par exemple, durant cette année, durant ce mandat, on a pu se présenter aux élections universitaires au début de l'année. Bon, malheureusement, on n'a pas eu de siège. C'est la deuxième année, on va dire que l'association existe à Tours, en tout cas réexiste à Tours, donc c'est un petit peu difficile de s'implanter face à des syndicats qui sont là depuis très longtemps. Mais c'est pas grave, on a pu, c'était une très belle expérience et voilà, on essaye d'aider les étudiants sur le plus d'aspects possibles.
Merci à toi Noam.
Est-ce qu'on peut vous retrouver l'association sur les réseaux sociaux ?
Exactement, alors on est très actifs sur Instagram. L'association, donc le nom de l'association sur Instagram, c'est EMF-Tour. Et on partage toutes nos actualités, donc que ce soit nos événements culturels, sociaux ou représentation étudiante. On centralise en tout cas toutes nos informations sur ce Instagram.
Merci beaucoup.
Merci
pour
à
ton
vous.
Intervention.
Place à l'agenda des sorties. La semaine, qu'est-ce que tu as à nous proposer, Marie ?
Oui, cet agenda il sera très féminin car beaucoup d'événements sont organisés donc à l'occasion de la journée et du mois des droits des femmes. Le jeudi 6 mars, la chanteuse Coline Rio est à la Pléiade à la Riche à 20h30 pour une soirée organisée en association avec le Temps Machine. Elle est également autrice et compositrice et a débuté dans le groupe Inuit avant de lancer son projet solo en 2022 avec la sortie de son EP Lourd et Délicat. Délicat, c'est à son image pour cette artiste talentueuse qui s'installe confortablement dans la scène de la chanson française. Le tarif réduit est de 14€, 5€ pour les détenteurs du PCE. Donc que vous la connaissiez ou non, c'est une super opportunité d'aller à la rencontre de son travail.
Exactement, le vendredi 7 mars, dans le cadre du festival Brice Mandel, qui met à l'honneur la création au féminin, qui t'a retrouvé tout au long du mois de mars avec une grosse programmation sur tout un ensemble de communes, de la métropole et ses alentours. La compagnie Maintenant ou Jamais joue à Oesia, à Notre-Dame-d'Oé, la pièce Suturée, à 20h30. Une histoire de vie qui suit Audrey et Kelly, deux ados d'un village qui grandissent et franchissent les étapes de jeunes adultes, se débattent avec leur héritage familial, social et tentent de trouver leur place. C'est au tarif de 13€ et 11€ avec le PCE, ainsi que gratuit pour les moins de 18 ans. Une émission est à retrouver sur Radio Campus Tours avec nous. Avec le festival Brice Mandel.
Le samedi 8 mars, donc trois événements en cette journée du droit des femmes, le planning familial organise en partenariat avec de nombreux organismes Bougeons pour l'égalité à l'hôtel de ville de Tours de 9h30 à 17h30 avec des ateliers et animations pour sensibiliser et s'interroger donc en cette journée qui prône l'égalité et l'avancée des droits et des mentalités. Donc conférences, installations sonores, jeux, théâtre, fresques participatives, les supports seront nombreux pour aborder ces questions. L'accès est bien évidemment libre et on vous donne rendez-vous dans Sortez ce jeudi 6 mars car on sera avec le planning familial pour parler de cette journée.
Exactement, l'association Dara Afghanistan organise le samedi 8 à la salle Hockey Game à 20h30 et dimanche 9 mars à Wagon à Saint-Branche à 16h, la voix des femmes afghanes. Une lecture poétique et musicale pour 14 femmes de Touraine tirée du livre Le cri des femmes afghanes. Le tarif réduit est à 10€ et 6€ avec le PCE. Toutes les recettes seront reversées à l'association qui soutient plus que jamais l'éducation des filles en Afghanistan. C'est sur réservation 06 78 46 15 12.
Et enfin, troisième événement qu'on a sélectionné pour le samedi 8 mars, le Temps Machine organise à 19h30 la troisième édition de Ceci n'est pas un barbecue, une soirée là aussi caritative au profit du centre d'hébergement et de réinsertion sociale Anne de Beaujeu qui accompagne les femmes avec enfants victimes de violences conjugales.
La soirée présente une programmation féminine avec Clameur, Pépine et Bourrasque au tarif réduit de 7 euros.
Le dimanche 9 mars, la compagnie Premier Théâtre vous invite à découvrir la correspondance de George Sand avec les femmes qui ont joué un rôle majeur dans sa vie dans une lecture théâtralisée. Mère, grand-mère, amie du couvent ou femmes artistes telles que Marie Dorval et Pauline Garcia Viardot. Tous ces échanges épistolaires ont déterminé la vision de George Sand sur la famille et la féminité, ont profondément influencé la place qu'elle donne à la femme dans ses romans et l'ont accompagnée dans ses choix de vie comme dans ses idées libres. La participation est libre et le rendez-vous est au patronage Laïc Lariche Lamartine au 86 bis rue Georges Courteline à Tours à 17h. La compagnie vous propose de venir habiller à la manière de George Sand pour une immersion totalement complète.
Et le lundi 10 mars, comme tous les lundis, la Cinémathèque vous donne rendez-vous au Cinéma Studio à 19h30. Ce lundi 10, c'est pour la projection d'Émancipé, film américain de 1922 de King Vidor. Il est considéré comme un des premiers films féministes de l'histoire du cinéma. Il compte l'histoire de Rose et Rodney, un couple amoureux, mais la situation de femme au foyer de Rose la satisfait de moins en moins.
Et enfin, le mardi 11 mars, une proposition classique, l'ensemble Consonance présente au Grand Théâtre de Tours, The Fairy Queen, une adaptation musicale de Songes d'une nuit d'été, associe la majesté de la musique baroque de Purcell avec l'esprit vif des comédiens shakespeariens. Trois intrigues amoureuses y sont entrelacées, la lutte de pouvoir et de séduction entre Titania et Oberon, souverain de fées, les tumultes passionnels des jeunes Athéniens Lysandre, Héléna, Démétrius et Hermia, et piquante comédie de Pyramide et de Cisbée.
Donc un agenda assez dense et on l'a dit, porté sur la création féminine et les artistes féminines. Le podcast de l'émission sera à retrouver sur radiocampustour.com. On se laisse sur une touche de musique avec Boulet de Grand Soleil et Club Nowadays et nous vous souhaitons une agréable soirée. We'll be right back.
Radio Campus 99.5. Radio Campus 99.5. J'ai dit Radio Campus 99.5. Radio Campus Tours.